Bonjour les collègues, vous écoutez La Gueule Ouverte, l'émission mensuelle d'Attaque Marseille, les deuxièmes jeudis de chaque mois de 15h à 15h30 sur Radio Galère. La Gueule Ouverte, une émission qui fait monter la yoli, qui boulègue les consciences et qui dit stop aux connos.
Bonjour aux auditeurs de Radio Galère. Alors au menu de ce 8 octobre, c'est notre 78e émission, oulala, ça nous rajeunit pas, hein. Nous avons prévu d'ouvrir bien grand notre gueule pour vous parler de trois sujets. La nécessaire réduction du trafic aérien, le projet d'extension d'aéroport de Marseille-Provence, la 5G et peut-être plus généralement la question des priorités, hein, une autre définition du progrès est possible, qui passe pas forcément par la croissance et tous ces gadgets, surtout s'ils sont potentiellement dangereux pour la démocratie, pour la santé et en tout cas, toujours plus énergivores, consommateurs de terres rares, etc. Et puis enfin, une troisième partie sera consacrée à la loi de programmation recherche, qui semble bien ne tirer aucune conséquence des constats rendus visibles aux yeux de tous pendant la pandémie, des déficits en recherche publique.
Alors, on attaque tout de suite avec le projet d'extension de l'aéroport Marseille-Provence. Disons-le d'entrée, nous sommes le 8 octobre, alors il vous reste 8 jours, pas un de plus, pas un de moins, pour participer à l'enquête publique. Vous pouvez consulter le dossier d'enquête publique tous les jours ouvrables à la mairie de Vitrolles, Direction générale adjointe à la vie citoyenne et développement urbain, bâtiment Lazuréen, premier étage, de 9h à 12h et de 14h à 17h. Et y inscrire vos commentaires dans le cahier réservé à cet usage. Mais vous n'êtes pas obligé de vous déplacer. C'est moderne. Il y a désormais un registre numérique. Vous tapez « Enquête publique aéroport Marseille-Provence » dans votre moteur de recherche préféré et vous trouvez, le voici quand même, www.registre-numérique.fr/coeur-aéroport-marseille-provence/voix.
Eh bien, merci. Pour ce qui est de la présentation, vous avez aussi un lien numérique de présentation du projet, mais c'est une présentation tout à son avantage, un petit peu aussi adaptée à l'ère du temps post-Covid, et une présentation qui minimise donc largement les réelles velléités d'extension de l'aéroport. Il faut remonter en 2017. Un grand projet d'extension de l'aéroport Marseille-Provence a été mis en place avec un programme d'investissement décennal sur 10 ans, donc de 2017 à 2027. Cela faisait suite à 10 ans d'augmentation régulière du trafic aérien, puisque sur les 10 années précédentes, on était passé de 6 à 9 millions de passagers par an. Et en dépit des considérations environnementales qui pourtant existaient déjà bien en 2017, donc AMP s'est lancée dans ses projets d'extension. Alors, elle a commencé par la rénovation du terminal 2. Ce terminal 2, donc, elle a commencé dès 2017, hein, il est dédié au vol à bas coût. Elle a ainsi pu doubler la capacité d'accueil de ce terminal de 2 à 4 millions de passagers, avec la mise en service de 2 nouvelles salles d'embarquement et de 2 nouveaux postes-avions. Ça représente quand même 2 200 m². Pour cet automne, elle prévoit la mise au standard européen des systèmes de contrôle des bagages. Et il reste 4 étapes dans ce plan. Et donc la première étape, c'est celle sur laquelle porte l'enquête publique, c'est la construction du cœur d'aérogare. Il s'agit de relier le terminal 1 au terminal 2, ce qui doublerait, rien que ça, hein, la surface du terminal 1 en surface planchée. Hein, ça représente plus 30 000 m². Ensuite, on attend 3 autres étapes, le redressement des pistes de roulement des avions, nouvelle construction d'aires de stationnement ou remise en tout cas en forme des aires de stationnement, c'est-à-dire les parkings des voitures, hein. Et enfin une troisième jetée d'embarquement. Alors jusqu'en 2019, l'augmentation du trafic a perduré, hein. La fréquentation d'AMP a atteint 10,151 millions de passagers, donc ça a crédité ce pari d'une croissance continue du trafic aérien. De sorte que l'objectif affiché du plan d'investissement décennal, qui était de passer de 9 à 16 millions de passagers entre 2017 et 2027, apparaissait toujours atteignable. Sauf qu'en 2020, la Covid est passée par là, avec une chute spectaculaire du trafic aérien. Et aussi quand même une volonté de réfléchir un peu plus aux conséquences de ces actes sur le long terme. Alors du coup, dans la présentation en ligne de l'enquête publique, il est prétendu que la construction attendue entre 2021 et 2024 ne vise en aucun cas à augmenter la capacité de l'aéroport, sauf que ce qui est prévu globalement, ça vise à augmenter la capacité de l'aéroport. Et puis quand même, on parle de 20 000 m² de surface supplémentaire créée, alors on a un petit peu de mal à le croire.
D'autant qu'il n'y a aucun engagement véritable à renoncer aux trois autres étapes de l'extension. Ce projet de construction du cœur d'aérogare apparaît un non-sens à tout point de vue. Évidemment écologique, parce qu'il ne faut pas augmenter le trafic aérien mais le réduire si on veut respecter ne serait-ce que l'accord de Paris ou les engagements nationaux et internationaux sur la réduction des gaz à effet de serre et même les engagements régionaux. Économique, parce qu'actuellement le secteur est en pleine crise. Social, parce que c'est le bon moment pour inventer autre chose en respectant l'avis des salariés concernés. Pour compléter sur le respect des règles et des engagements, l'autorité environnementale, structure indépendante mise en place par l'État, a donné son avis le 24 juillet 2019 sur le projet. Je vous en donne des extraits. AMP, donc pour Marseille-Provence, pardon, prévoit aujourd'hui d'étendre et de moderniser le terminal T1 afin d'éviter la saturation et d'augmenter l'attrait des infrastructures aéroportuaires dans le contexte de la poursuite de la croissance rapide du transport aérien. Le dossier juge inéluctable l'augmentation du trafic aérien et n'envisage pas d'alternative à ce modèle de croissance. L'étude présente des défauts méthodologiques majeurs dans la définition des scénarios d'études. Ceci conduit à sous-estimer les impacts environnementaux du projet et à surestimer ses bénéfices socio-économiques. L'agence environnementale recommande en particulier aux maîtres d'ouvrage et à l'État de, je cite, « démontrer la compatibilité du projet avec l'engagement de la France à atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050 ».
Il y a le rapport annuel 2020 du Haut Conseil pour le Climat. C'est une instance qui a été mise sur pied par Macron. S'agissant de l'aérien, il est nécessaire de redéfinir ses perspectives de façon concertée, rigoureuse et évaluée. Une meilleure évaluation des effets directs et indirects du télétravail permettra de valoriser ce levier dans les déplacements du quotidien. Quant au transport ferroviaire, porteur de fortes réductions d'émissions, de gaz à effet de serre, sous-entendu, hein, il doit rattraper le retard d'investissement structurel qu'il a subi. Donc bon, dans ce rapport annuel du Haut Conseil pour le Climat, on dit en gros, il faut diminuer l'aérien, hein, et il faut rattraper les investissements sur le ferroviaire. Et puis on a encore eu, toujours mise en place par Macron, mais ça lui est un petit peu retombé dessus, hein, cette fameuse convention citoyenne, de citoyens donc tirés au sort, qui a proposé à ce sujet cette proposition. Nous voulons, d'ici 2030, favoriser les transports bas carbone pour diminuer les gaz à effet de serre émis par les vols nationaux et internationaux. Et pour ce faire, nous proposons de, alors, adopter une éco-contribution kilométrique renforcée. Ça, c'est une taxe, donc. Organiser progressivement la fin du trafic aérien sur les vols intérieurs d'ici 2025, uniquement sur les lignes où il existe une alternative bas carbone satisfaisante en prix et en temps, c'est-à-dire un temps de trajet de moins de 4 heures. Interdire la construction de nouveaux aéroports et l'extension des aéroports existants, tiens donc. Quatrième proposition, taxer davantage le carburant pour l'aviation de loisirs. 5. Promouvoir l'idée d'une éco-contribution européenne, donc une taxe européenne. 6. Garantir que l'ensemble des émissions qui ne pourraient être éliminées soient intégralement compensées par des puits de carbone. Donc ça, c'est le système de compensation en plantant des arbres. 7. Soutenir à moyen terme la recherche et développement dans le développement d'une filière biocarburant pour les avions. Bon là, c'est les propositions de la Convention citoyenne. On n'est pas forcément d'accord hein, avec l'usage des biocarburants. Ça montre quand même, ces propositions, une prise de conscience générale sur le sujet de ce transport aérien.
Alors, Attaque France vient de publier une note de 16 pages que vous pouvez bien sûr retrouver et lire sur le site d'Attaque France, largement documentée et référencée. En France, le secteur aérien considère que le pourcentage de ses émissions de gaz à effet de serre est très faible, de l'ordre de 1 à 2 % des émissions globales. Les organisations qui alertent et s'opposent au dérèglement climatique, le GIEC, les ONG, pour elles, le chiffre serait plutôt à 5 %, voire jusqu'à 7 %. Il n'y a pas que des émissions de CO2. Les traînées de vapeur d'eau induites par les avions ont un effet de réchauffement similaire. Par ailleurs, il n'y a pas que la circulation des avions, mais aussi leur construction et tout ce qui va avec leur fonctionnement, aéroport compris. Et là, ça représenterait encore plus. Le trafic aérien s'est massifié en 30 ans. Pourtant, l'empreinte carbone au kilomètre d'un passager en avion de ligne représente une pollution 40 fois supérieure à celle produite pour la même distance en TGV. Quant à la classe à faire, il faut multiplier le chiffre par 3. Et on ne parle pas des infrastructures qui entraînent une
artificialisation
des terres. Une seule solution possible, la réduction du trafic. Revenir au raisonnable, à un minimum de sobriété.
Quelques mots sur la déréglementation qui a vu le jour depuis plus de 20 ans. Par exemple ici, donc, tout transporteur aérien établi dans l'Union européenne a le droit de desservir librement toute liaison intracommunautaire de son choix, que ce soit entre deux États ou même à l'intérieur d'un État, même pas le sien, hein, sous réserve des capacités physiques de l'espace aérien et des aéroports. Cette déréglementation a secoué l'ensemble du transport aérien en instaurant une concurrence entre les compagnies classiques et surtout en facilitant l'émergence du modèle économique des compagnies à bas coût. Ces compagnies s'appuient sur une réduction des coûts tous azimuts, un service minimum pour les passagers, une réduction des coûts de fonctionnement avec l'utilisation d'un seul type d'avion, des escales rapides, des liaisons point à point, donc sans prévoir de correspondance, hein. Des employés qui remplissent plusieurs fonctions à la fois, des salaires réduits, l'emploi de stagiaires, des statuts précaires à tire-larigot, des pilotes auto-entrepreneurs immatriculés en Irlande chez Ryanair par exemple, l'utilisation de prix d'appel très bas mais avec facturation de prestations complémentaires, donc des suppléments pour les bagages, pour les frais d'enregistrement, pour le paiement du ticket. Donc en fait c'est un peu plus cher mais... On croit que ça l'est moins. Les compagnies reçoivent également des subventions déguisées, hein, par les collectivités locales, qui sont appelées pudiquement aides au marketing et qui sont souvent reversées en plus à des filiales basées dans des paradis fiscaux. Ces subventions suivent des négociations pour que l'avion vienne atterrir dans leur ville. Malgré cela, les prix ne reflètent pas la réalité et sont souvent des prix d'appel, les bénéfices étant en fait réalisés ailleurs, avec des programmes immobiliers, avec de l'hôtellerie pour tourisme de masse. Et puis bon, ces compagnies servent aussi de lièvre, hein, pour casser les acquis sociaux et instaurer une ubérisation du travail. Et elles représentent maintenant 25% du trafic mondial, hein, et plus de 40% du trafic en Europe. Malgré l'irruption des compagnies à bas coût, l'utilisation de l'avion reste quand même le privilège d'une minorité. En 2016, d'après le ministre de la Transition écologique, 53% des cadres supérieurs déclaraient avoir pris l'avion au cours de l'année précédente. Dans le même temps, seulement 28% des employés et 19% des ouvriers avaient utilisé ce moyen de transport. Et aujourd'hui, il faut noter que 40% des Français n'ont jamais pris l'avion. Alors les vols à bas coût ont banalisé l'usage de l'avion, alors qu'on n'aurait pas dû le banaliser.
À noter que depuis la crise du Covid, le trafic aérien collectif est en pleine crise. Mais l'activité aérienne pour ultra-riches et affaires haut de gamme est par contre en plein essor. Défiscalisation pour les actionnaires et beaucoup moins de mesures contraignantes, aéroports réservés à cette clientèle et peu ou pas de contrôle. L'évasion de Carlos Ghosn a mis en lumière ses privilèges. Enfin, un autre secteur maintient sa pleine croissance. L'aéronautique militaire et son rôle stratégique dans les conflits, ainsi que la construction de drones.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. pour fabriquer une bombe. Mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir, pendant leur parole, la tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant les luttes immédiatement, chef du gouvernement.
La crise de la Covid-19 a démontré que l'arrêt du trafic était politiquement et techniquement possible. Désormais, il faut planifier une reprise progressive qui tienne compte de la nécessaire réduction du trafic. Cette planification va nécessiter une transformation ou une reconversion des entreprises et de leurs salariés qui ne peut être laissée dans les mains du marché, ce qui provoquerait une catastrophe économique et sociale. À plus grande échelle, 7 580 sur 45 000 emplois sont menacés chez Air France pour fin 2022, tandis qu'Airbus prévoit la disparition de 15 000 postes, dont un tiers en France, pour l'été 2021. Les sous-traitants ont suivi et annoncé eux aussi des réductions d'effectifs. British Airways table sur 12 000 suppressions de postes contre 5 000 chez KLM.
Donc, bon, on voit déjà une énorme crise sociale hein, si on ne la traite pas correctement. Alors, malgré tout, on pense toujours qu'il faut réduire le trafic aérien pour l'écologie hein, et pour l'avenir. Alors, quelles mesures faut-il prendre ? Il y a différents types d'usages, professionnels, familiaux, touristiques, fret. Il y a des vols domestiques, donc à l'intérieur d'un même État, et puis il y a les vols internationaux. Et les réponses seront différentes suivant les cas. De même qu'une réglementation contraignante a conduit à réduire le bruit émis par les appareils, même si ça reste insuffisant, une réglementation européenne pourrait imposer la décroissance de la consommation moyenne annuelle de carburant pour tous les vols touchant le territoire européen. L'aviation privée doit être vraiment réglementée. Elle émet deux fois plus de CO2, ce qui, rapporté au nombre de passagers transportés, en fait un mode de transport de luxe. Elle doit être fortement régulée pour les déplacements familiaux ou d'agrément. Et la téléconférence doit être privilégiée hein, en remplacement de tout type de voyage professionnel. Le fret aérien doit être diminué, voire supprimé. Sauf cas d'urgence avérée ou à utiliser à l'avenir des dirigeables gonflés à l'hélium et alimentés par des énergies renouvelables. Ainsi, la relocalisation ou les modes de transport alternatifs seront encouragés. Des lésions nationales doivent être supprimées au profit du transport ferroviaire hein, qui doit être développé, dont parmi lesquels les trains de nuit. Il faut que ça soit au moins à partir de 4 heures de transport en train et non pas 2h30 comme le propose actuellement le gouvernement. il sera nécessaire de réglementer l'impossibilité aussi pour ces liaisons supprimées d'être prises par d'autres compagnies, et en particulier les compagnies à bas coût, évidemment. Quant aux déplacements à l'international, eh ben, il faut les limiter. Donc il faudrait limiter l'habitude des voyages touristiques lointains, remettre en cause ce système. Ce sont ces déplacements qui représentent le plus fort impact sur le climat. Alors quoi faire ? Un système de taxes au-delà d'un certain kilométrage d'avion par an ? Ça serait un pis-aller qui favoriserait les riches pouvant payer. Peut-être vaudrait-il mieux un système de quotas kilométriques par personne et par an, hein, qui serait cumulable sur les années. Et puis peut-être des exceptions à prévoir aussi pour les habitants des îles, pour les familles séparées. Bon, ça paraît un peu compliqué à imaginer parce que jusqu'à maintenant on vivait dans une situation de libéralisme total. La situation actuelle de la planète nous y contraint. Ça demande en tout cas de convaincre le plus grand monde, de changer l'imaginaire des gens, que ces derniers aient aussi plus de temps, hein, pour voyager autrement, parce que c'est souvent dicté par une société qui fait tout de plus en plus vite, il faut que ça rentre dans le temps de vacances, etc. Et puis, évidemment, il faut investir massivement dans le ferroviaire, parce que le ferroviaire est nettement moins polluant, moins polluant que la voiture individuelle, bien sûr, pour les petits trajets, et moins polluant que l'avion pour les grands trajets. Donc l'avion, il est réservé à ce qui n'est pas possible en train. Il faut évidemment aussi interdire la construction ou l'extension des infrastructures existantes.
Et pour les salariés, d'abord, indépendamment des mesures à prendre pour la reconversion, afin de supprimer le dumping social, mettre en place une convention collective européenne des travailleurs du secteur intégrant tous ou toutes les salariés travaillant sur les aéroports et les travailleurs des compagnies à bas coût, et supprimer le travail détaché. Interdire les licenciements, faire financer par l'État les salaires des entreprises en difficulté et les mesures de chômage partiel, en contrepartie d'un engagement sur une reconversion. Le partage du travail et la diminution du temps de travail, diminution hebdomadaire, ou départ retraite anticipée, travaux pénibles, travaux en horaire tournant, nuit et week-end, produits toxiques, bruit, posture pénible, stress. En finir avec les rémunérations mirobolantes des cadres supérieurs et dirigeants. Échelle des salaires qui va de 1 à 5, intégrant les emplois sous-traités.
C'est ce qui est réclamé, l'échelle des salaires de 1 à 5, parce qu'elle est beaucoup plus élevée, en fait.
D'accord. Un plan de reconversion d'une partie des emplois. Ces jours après Covid sont favorables à la définition d'un nouveau contrat social. Et c'est le moment de réfléchir à la transformation des anciens métiers vers une réindustrialisation et un accroissement des services à la personne. Utiliser une partie du temps de travail des salariés du secteur pour repenser collectivement l'avenir des activités. Identifier les passerelles possibles vers d'autres secteurs d'activité en fonction du type de qualification. Maintenance des avions, des trains, de la billetterie, planification des vols, du transport en commun. Relocalisation en France d'industries nécessaires. Développement de structures de travail nouvelles, l'agriculture, comme les coopératives, les petites fermes, mise en commun de l'outillage, par exemple, dans la transformation des produits agricoles et dans les énergies renouvelables. Le chantier qui s'ouvre est donc gigantesque et passionnant. Il doit mobiliser l'intelligence collective des salariés et des habitants, et c'est leur implication, leur engagement, qui sera la clé, mais aussi le carburant de la dynamique collective à mettre en œuvre pour penser le monde d'après, selon la terminologie en vogue. Ce pourrait être un modèle innovant de la transition écologique pour d'autres secteurs.
Ça fait 100 longs hivers que j'use le même corps. J'ai eu 100 ans hier, mais qu'est-ce qu'elle fait la mort? J'ai encore toute ma tête, elle est remplie de souvenirs, de gens que j'ai vu naître, puis que j'ai vu mourir. J'ai tellement porté de deuil que j'en ai les idées noires. Je suis là que je me prépare, je choisis mon cercueil, mais le docteur me répète, visite après visite, j'ai une santé parfaite, il est là qui me félicite. J'ai vu la première guerre, le premier téléphone. Me voilà centenaire, mais bon, qu'est-ce que ça me donne? Les grands avions rugissent, il y a une rayure au ciel. C'est comme si l'éternel m'avait rayé sa liste. Ça fait 100 longs hivers que j'use le même corps. J'ai eu 100 ans hier, mais qu'est-ce qu'elle fait la mort? Qu'est-ce que j'ai pas fini, qu'il faudrait que je finisse? Perdre un dernier ami, enterrer mes petits-fils. J'ai eu 100 ans hier, ma place est plus ici. Elle est au cimetière, elle est au paradis. Si je méritais l'enfer, alors c'est réussi. Je suis centenaire et je suis encore en vie. Moi je suis née aux chandelles, j'ai grandi au charabon. Bien sûr que je me rappelle du tout premier néon. J'ai connu la grande crise, j'allais avoir 30 ans. J'ai connu les églises avec du monde dedans. Moi j'ai connu les chevaux et les planches à laver. Un fleuve tellement beau qu'on pouvait s'y baigner. Moi j'ai connu le soleil avant qu'il soit dangereux. Faut-il que je sois vieille? Venez me chercher, bon Dieu. J'ai eu 100 ans hier, c'est pas que j'ai pas prié, mais ça aurait tout l'air que Dieu m'a oublié. Alors j'ai des gardiennes, que des nouveaux visages, des amis de passage payés à la semaine. Elles parlent un langage qui ne sera jamais le mien. Ça me fait du chagrin d'avoir 5 fois leur âge et 1000 fois leur fatigue immobile à ma fenêtre. Pendant qu'elle navigue tranquille sur Internet. C'est vrai que j'attends la mort, mais c'est pas que je sois morbide. C'est que j'ai 100 ans dans le corps et que je suis encore lucide. C'est que je suis avide, mais qu'il n'y a plus rien à mordre. C'est que mon passé déborde et que mon avenir est vide. On montre à la télé des fusées qui décollent. Est-ce qu'on va m'expliquer ce qui me retient au sol? Je suis d'une autre école, j'appartiens à l'histoire. Mes années folles, j'ai eu mes heures de gloire. J'ai eu un bon mari et 4 beaux enfants. Mais tout le monde est parti dormir au firmament. Et il n'y a que moi qui vais. Qu'elle fait la mort.
La 5G. 5G pour 5e génération, si j'ai bien compris. Alors, de quoi parle-t-on? Bon, la 4G, c'est essentiellement des ondes sur des fréquences de 15 à 20 MHz. La 5G, ça repose sur une première bande qui va de 3,4 à 3,8 GHz, donc des fréquences beaucoup plus hautes. Une seconde est prévue sur les fréquences de 26 GHz, dont le déploiement n'est pour l'instant réalisé nulle part et on ignore à quelle période il pourrait l'être. Et puis la 5G, elle utilise aussi en support la bande de 700 MHz qui sert aujourd'hui déjà à la 4G. Ces trois bandes, donc 700, 3,4 à 3,8 et 26, elles répondent différemment aux trois critères clés de tout développement d'un réseau mobile, la portée, le débit et la pénétration à l'intérieur des bâtiments. Alors la bande 700 MHz, elle a un faible débit, une grande portée et une très bonne pénétration à l'intérieur des bâtiments. Et puis la bande 26, elle a giga, donc elle a un excellent débit mais très peu de portée, 300 mètres. Elle pénètre très difficilement à l'intérieur des bâtiments. Et enfin, la bande 3,4-3,8 GHz, elle est appelée fréquence cœur 5G parce que c'est elle qui offre le meilleur compromis entre portée, débit et pénétration. Pourquoi une cinquième génération ? Alors, elle ne remplace pas, elle vient s'ajouter aux précédentes ondes. L'utilité actuelle pour l'utilisateur est assez ridicule par rapport aux investissements envisagés qui sont énormes. On prétend gagner en débit, en vitesse de chargement, et on parle d'aller jusqu'à 1 gigabit par seconde. Et alors, a-t-on vraiment besoin de ça ? Est-ce que ce gain prétendu mérite l'installation de centaines de milliers d'antennes, l'utilisation de tonnes de terres rares pour fabriquer les émetteurs-récepteurs liés, le renouvellement complet à terme du parc des téléphones portables ? En plus, le même type de débit et de vitesse, en plus stable et en moins polluant invisible, s'atteigne avec la fibre optique, n'oublions pas. Alors on prétend gagner en réactivité. Et là, alors on passerait de 20 millisecondes à 1 milliseconde. Ah oui, c'est divisé par 20. Waouh, ça c'est de la suppression de décalage. Mais bon, dans quel but ? Franchement, être encore plus esclave de nos téléphones portables ? On est sur des centièmes de seconde gagnée. Alors on nous dit que sa faible latence et sa grande capacité de transport d'informations présentent un intérêt dans des cas très précis, opérations chirurgicales à distance par exemple. Bon, on pourrait aussi choisir de former plus de chirurgiens qui interviendraient sur place. Mais même en l'admettant, ou pour des procédés industriels précis, où l'usage d'une machine commandée à distance permet de ne pas mettre en danger un salarié, et où il y aurait besoin de cette rapidité. Alors ok, alors il suffit d'installer ce type d'émission réception ponctuellement, là où c'est utile. Mais pourquoi vouloir l'imposer partout ? En fait, le premier enjeu de la 5G, c'est un pari économique. La 4G, elle a coûté très cher et elle n'a pas été rentable, alors il faut trouver de quoi vendre du neuf. Alors la 5G, bien chère elle aussi, n'a d'intérêt que parce qu'il est prévu d'en étendre l'usage à des objets du quotidien qui deviendraient connectés, c'est-à-dire capables d'envoyer des informations. Ça suppose qu'ils aient des capteurs visuels, calorifiques, audio, et capables d'être commandés à distance. Ça veut donc dire renouveler tous ces objets du quotidien, bien sûr. Alors bonjour la consommation, et ils se frottent les mains. Tout ça pour vivre dans un monde robotisé. La science-fiction l'a imaginé, et comme souvent, la réalité la rattrape. On avance par exemple que cette transmission ultra-rapide permettrait de connecter les voitures sans chauffeur entre elles, et potentiellement de supprimer les accidents liés à l'erreur humaine. Mais diminuer le nombre de voitures individuelles serait peut-être un peu plus intelligent pour la planète. Et bon, tout est à l'avenant. Pour diffuser une onde qui transmet et reçoit une information sur un réseau numérique, plusieurs éléments sont nécessaires. Un point d'élévation, donc une tour, un mât, un toit d'immeuble, une station, donc une structure métallique pour recevoir tout l'équipement réseau, une antenne fixée sur la station pour émettre et recevoir le signal, une connexion entre l'antenne et le réseau fibré ou câblé pour transmettre l'information et le réseau fibré lui-même. L'utilisation des différentes bandes de la 5G ne font pas appel aux mêmes points d'élévation, aux mêmes stations, aux mêmes antennes ni au même type de réseau câblé. C'est dire qu'il faudra tout installer. La bande de 700 MHz, bon, elle sert déjà à la 4G, donc il suffira d'une mise à jour des antennes et ça servira surtout de base à la couverture longue distance, hein, du fait de la longue portée de ces ondes, quelques kilomètres au moins. Les nouvelles antennes seront a priori installées sur les stations 4G déjà existantes et le réseau fibré devra être renforcé pour supporter l'augmentation du trafic que sous-tend la 5G. Cette fréquence servira majoritairement à couvrir les espaces non urbains, la fréquence 700 MHz. Contrairement aux 700 MHz, la bande de 3,4-3,8 GHz permet un compromis central entre haut débit et portée. Toutefois, ces nouvelles antennes auront une portée de 1 km ou 2. Elles nécessiteront parfois des nouvelles stations, s'installeront aussi sur les points élevés de l'environnement urbain. Ces antennes se diviseront généralement en deux types d'antennes. Alors, des macro-cells pour les stations qui traiteront plus de trafic et les small-cells, on est toujours dans l'anglais, hein, qui garantissent un débit élevé aux endroits précis où elles sont déployées. Et on peut imaginer, donc, la macro-cell, ça sera un nœud principal qui déploie des small-cells autour de lui. Et ces dernières, elles seront majoritairement présentes dans l'environnement urbain. Quant à la bande des 26 GHz, donc elle a certes un excellent débit, donc 1 gigaoctet par seconde, mais une portée réduite et une faible pénétration. Par exemple, une paroi vitrée, c'est un obstacle hein, pour elle. Alors, la promesse du très haut débit de la 5G tient majoritairement à l'utilisation de cette bande, qui est pourtant difficilement compatible avec l'environnement urbain. Pour pallier sa faible portée et sa faible propagation, il faudrait qu'il y ait des centaines, voire des milliers d'antennes déployées en ville qui relayeraient le signal vers les macro-cellules. Voilà. Donc, cette bande demandera un nombre phénoménal d'antennes pour assurer la couverture à très haut débit et elles seront majoritairement installées sur le mobilier urbain, feux rouges, lampadaires. La densification de ces antennes conduira logiquement à une densification massive du réseau fibré. Et comme le remarque ironiquement le PDG d'une entreprise qui déploie des systèmes filaires pour la 5G, la nouvelle génération de technologies sans fil, soi-disant, reposera plus que jamais sur des fils. Donc ce n'est pas la nouvelle fréquence qui garantit le très haut débit, c'est la mise à jour agressive et le redimensionnement d'une infrastructure de serveurs, d'alimentation, de câbles, de fibres et de fibres optiques. Alors, tout ça pour ça ? Sur la 5G et la santé, il n'y a pas vraiment actuellement de résultats tangibles. Hein. Bon, on peut toujours imaginer que les ondes à forte dose, c'est pas terrible, mais l'effet varie selon les sujets. Une étude très large sur une longue période a été lancée sur les 3 et 4G, dont on n'a pas encore tous les résultats, mais on en a des partiels. Et il s'avère plutôt que ce ne sont pas les antennes, hein, mais les téléphones portables portés trop près de la tête et pour des durées très longues, trop près de la tête, qui augmentent légèrement pour les jeunes adultes le risque d'un certain type de cancer du cerveau. On n'a pas vu tant d'autres effets. La 5G serait plutôt moins pénétrante, donc moins risquée que les précédentes. Évidemment, il reste la question des personnes électrosensibles ou hyper-électrosensibles qui déjà, même sans la 5G, hein, ne parviennent plus à trouver des lieux de vie. Alors, juridiquement, bon, le Parlement européen s'y est penché hein, sur cette situation et il y a eu cette résolution 1815 du 27 mai 2011 qui a mis en avant un principe de précaution hein, en invitant les États à mettre en place des zones blanches, en invitant les États à poursuivre les études pour connaître les effets croisés de tous les champs électromagnétiques dans lesquels nous vivons, non seulement sur les hommes, hein, mais aussi sur l'environnement, les animaux, les plantes, etc. Pour ce qui est des personnes électrosensibles, il y en a entre 0 et 10% dans la société, et pour 10% d'entre elles, c'est totalement invalidant. Pour ces personnes, donc conserver des zones dites blanches, c'est impératif. Et actuellement, elles sont obligées de se terrer en montagne. Bon, c'est pas du tout une vie. Puisqu'elles existent, il faut prévoir quelque chose pour elles. Elles ont le droit de vivre décemment, même si leurs symptômes ne sont pas actuellement reconnus par l'OMS. Pour les travailleurs, par contre, il y a une autre directive du Parlement européen, cette fois, et du Conseil, qui date du 26 juin 2013. Et cette directive, elle prescrit des conditions minimales de sécurité pour la santé des travailleurs, donc, et pour l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques, les champs électromagnétiques. Alors, pour le reste, il y aura donc des nouvelles émissions d'ondes hein, qui viendront s'ajouter et non pas se substituer aux précédentes, la 2G, la 3G, la 4G. Mais encore, on prévoit de connecter beaucoup d'objets, donc il faudra racheter tous ces appareils électroménagers connectés, des voitures qui conduisent toutes seules. C'est cette fuite en avant vers toujours plus de robots, d'automatismes et d'utilisation d'énergie électrique, principalement. Là où on utilisait jusque-là notre force, notre corps, notre tête. Quant aux raisons de s'opposer au déploiement de la 5G, ben, la première, c'est cette question de choix de société. On n'en veut plus de cette fuite en avant. Le progrès, c'est pas ça. On aurait pu le dire avant, hein, pour la 4G ou pour d'autres prétendus progrès. Mais bon, c'est pas parce qu'on a suivi le mouvement jusqu'à maintenant qu'il faut continuer. Il y a bien un moment où on peut s'arrêter. Avec l'énergie et la matière disponibles sur Terre, sans la piller, sans la déséquilibrer, cette Terre, on a mieux à faire pour améliorer la vie de tous. Et le choix du capitalisme, toujours plus, va droit dans le mur. À cette raison, on s'en ajoute d'autres qui sont citées, hein, comme par exemple la vie privée qui se réduit à une peau de chagrin si non seulement tous vos mouvements, mais aussi le contenu de vos placards, l'heure à laquelle vous dormez, vous mangez, sont disponibles à tous. Et puis la gabegie énergétique hein, qui continue avec ces futures installations et cette robotisation. L'extractivisme pour les terres rares, hein, pour tous les conducteurs et semi-conducteurs utiles. Et puis enfin, ça peut paraître anecdotique, mais la 5G menace les prévisions météo. Et oui, le déploiement futur de la 5G dans la bande des 26 GHz, inquiète les scientifiques, parce que les satellites météorologiques utilisent des fréquences très proches. Cette bande est en effet indispensable pour la mesure de la concentration en vapeur d'eau de l'atmosphère et par conséquent pour les prévisions météorologiques et le suivi du changement climatique, indique l'Agence nationale des fréquences. Or, les États n'ont pas réussi à s'accorder là-dessus, seulement sur des limites très lâches et qui pourraient donc mettre en danger les prévisions météo.
Do you know that beast?
Qui inventa?
Who discovered?
Le calcul intégral!
Integral calculus!
Oui, dis-moi, connais-tu l'animal qui inventa le calcul intégral? Est-ce Leibniz ou bien Newton ou bien est-ce que c'est moi qui déconne? Voudrais-tu, mon amour, intégrer des équations nuit et jour? Sais-tu que quand on fait des épures, tout ce qu'on attrape, c'est les courbatures?
Ah.
Moi j'en ai eu quand j'étais tout gamin, en trayant des vaches pour la Saint-Valentin. Il y en avait une qui avait une bonne tête, elle était mignonne, on l'appelait Chipette.
Oh, tell me!
Dis-moi!
Do you know that beast?
Connais-tu le général?
Who discovered?
Qui inventa?
Integral calculus!
Le calcul intégral!
Le général Cambronne, je crois que ce qu'il a trouvé, c'est pas tout à fait ça. Pénélope, quand tu lisais parti, tout ce qu'elle savait, c'est faire tapisserie, la pauvre. L'homme des neiges, c'est pareil.
Il a dû fondre au soleil.
S Astérix, soit plus Mégalix, pendant que vous y êtes, pourquoi pas Évarix?
Évarix le Gaulois!
Quand je t'ai vu sur ton balcon, tu m'as dit intègre et ne fais balcon.
Mais dis-moi,
tell me,
connais-tu l'animal?
Do you know that beast?
Qui inventa?
Who discovered?
Les campagnes électorales.
Integral calculus.
Sais-tu quels furent les premiers porte-clés? Ben tout simplement, les bourgeois de Calais.
Ce que je pense d'Antoine et de Jacques Dutronc,
ça commence par C, ça finit par on.
700 millions de yéyés à travers le monde entier. Ça ne fait jamais tout bien compter qu'un 1,4 milliard de pieds.
Je crois qu'il vaut mieux mettre un point final, sinon ça pourrait finir encore plus mal. Oh yeah!
Eh bien, on va attaquer maintenant notre partie sur la loi de programmation de la recherche.
Déjà, je vais me présenter. Je suis Séverine Kerouache. Je suis enseignante-chercheure à Aix-Marseille Université. Et effectivement, il y a plusieurs points qui vont pas très très bien dans la recherche. Il y a une baisse des crédits récurrents tout au long des 20 dernières années. On a aussi perdu beaucoup de postes. On a perdu des postes de personnel technique et administratif, des postes de chercheurs, des postes d'enseignants-chercheurs. On a perdu en attractivité, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de jeunes qui s'orientent vers la recherche. On a beaucoup plus de mal à recruter. Déjà, au niveau du doctorat, en fait, on a des fois du mal à trouver des candidats pour faire des thèses. Et après, pour les postes, c'est pareil. On a parfois du mal à trouver des candidats pour des postes qui sont portés au concours. Que dire d'autre sur l'état de la recherche? En fait, juste avant la loi, les groupes de travail en fait, qui ont préparé cette loi ont été lancés en février 2019. À l'été 2019, il y a eu 3 rapports qui ont été rendus, un sur le financement de la recherche, un sur l'attractivité des emplois et des carrières, et un sur la recherche partenariale et l'innovation. Et ces 3 rapports font un état des lieux assez fidèle de ce qu'est la recherche. Et donc, du coup, ils soulignent tous les points que j'ai précisés avant. Et ces 3 rapports, ils vont aussi faire des propositions qu'on va retrouver essentiellement dans la loi. En fait, le projet de loi, en tout cas, qui a été présenté à l'Assemblée nationale au mois de septembre, il est largement inspiré des propositions de ces 3 rapports. Et moi, il y a un certain nombre de propositions que je trouve contre-productives et je vous en parlerai après.
À propos d'attractivité, tu m'as donné un chiffre de la comparaison des salaires avec le niveau du SMIC, juste pour illustrer.
Ouais. Alors, en 1985, un enseignant-chercheur débutant gagnait l'équivalent de 2,25 fois le SMIC. En 2018, c'est plus que 1,53 fois le SMIC. Donc du coup, par rapport au salaire des autres gens, devenir chercheur, c'est de moins en moins attractif. Moi, j'ai souvenir qu'en début de carrière, quand je faisais des manifs, que je discutais avec un CRS en face de moi, parce que moi, je luttais contre la précarité des étudiants et tout plein de choses comme ça, et ils se moquaient parce qu'ils gagnaient beaucoup plus que moi, qui avait un bac plus 8, 2 ans d'expérience professionnelle à l'étranger. Et voilà, ils étaient surpris quand on lui racontait nos salaires, quoi. Il y a une chose que j'ai trouvée vraiment positive, c'est qu'il y a à plusieurs endroits, dans plusieurs articles, la loi, elle insiste sur l'égalité homme-femme. Donc il y a une grosse avancée, au moins en intention. Alors après, en plus, il est précisé, je ne sais plus à quel endroit, que les rapporteurs de la loi, ou je ne sais pas qui, enfin, doivent faire un rapport au bout de 6 mois ou 1 an, je ne me rappelle plus, sur les effets de cette loi sur l'égalité homme-femme. Donc il y a un suivi qui est prévu dans la loi, et il est précisé que les commissions de recrutement ne doivent pas contenir plus de 60% des membres appartenant à un même sexe. Et ça, c'est vraiment très important aussi, parce que les commissions actuelles, elles sont pas exclusivement, mais elles sont majoritairement masculines et ça a vraiment une influence sur le recrutement. Il y a des chiffres qui sont intéressants, des objectifs chiffrés, mais par exemple, le premier article, il indique que le budget de la recherche doit atteindre 3% du PIB au cours de la décennie. Donc, du coup, c'est l'objectif à 2030, c'est d'arriver à 3% du PIB. Alors ça, sur le papier, c'est bien, sauf que c'était déjà ce qui était promis pour 2020. Donc, en fait, déjà, on n'y croit pas, et ensuite, au mieux, ça ferait que rattraper le retard qu'on a. Et du coup, c'est pas vraiment une avancée. Mais c'est quand même quelque chose d'un peu positif. On est en dessous de la moyenne de l'OCDE, mais alors là, j'ai pas les chiffres, je sais pas. Mais je sais que sur ce point-là, on est en dessous de la moyenne de l'OCDE. Là, je crois qu'actuellement, on est autour de 2,2% du PIB. Et voilà, on est en dessous des autres pays développés. Ouais. La je vois, par exemple, dans l'article 4, donc il reparle du contrat doctoral, et ils obligent les universités à suivre pendant 5 ans l'évolution de leurs docteurs, de les suivre, en fait, dans le début de leur carrière professionnelle. Et je trouve qu'il y a pas mal de choses. Bon, il y a, dans la loi aussi, il y a l'intention donc de favoriser les débuts de carrière, donc d'augmenter les rémunérations en début de carrière. Donc ça, c'est une bonne chose, c'est important. Alors, ce qu'il y a, c'est que les rémunérations auxquelles on va arriver, elles vont rester pas très attractives par rapport à d'autres pays développés, mais elles seront déjà moins ridicules que maintenant. Et puis surtout, voilà, si les établissements qui reçoivent ces jeunes chercheurs ou les docteurs et qui doivent les suivre, c'est une bonne avancée aussi. Quoi. Donc il y a des petites choses intéressantes, mais il y a quand même quelques points qui me font beaucoup grincer des dents. Je vais repartir d'un point, c'est que dans la recherche, il y a des financements de type fixe, c'est-à-dire que un laboratoire va recevoir une somme fixe tous les ans. Et il y a des financements qui sont aléatoires, c'est-à-dire qu'il faut que le laboratoire aille chercher en faisant des appels à projets, en faisant des partenariats avec des entreprises privées, etc. Et la part de fixe dans les budgets des laboratoires, elle se rétrécit petit à petit au cours du temps. Et ça, c'est très, très, très préjudiciable à la qualité de la recherche. C'est-à-dire que, d'une part, les chercheurs, ils perdent du temps à chercher des financements. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des recherches, ils construisent des dossiers. Donc, ils font du travail administratif pour trouver des sous. Au lieu d'employer des chercheurs à chercher, on les emploie à chercher de l'argent, ce qui est un peu dommage. Et ensuite, le fait de faire un financement sur des projets ou sur des contrats, ça oriente la recherche vers des objectifs très court-termistes. Et ça, c'est très, très dangereux parce qu'à terme, on va tuer toutes les innovations. Le financement fixe, c'est ça qui permet à un chercheur de se poser, d'avoir du temps pour suivre une idée à lui. Alors, elle sera peut-être pas productive au départ. Et puis, un jour, il va se passer un truc. Et puis, une fois qu'il aura trouvé ça, ce sera peut-être lui ou peut-être d'autres qui vont trouver les applications. Alors que maintenant, on met la charrue à l'avant les bœufs, c'est-à-dire que pour pouvoir un financement, il faut déjà prévoir l'application. Donc, du coup, pour que le financement, on puisse l'obtenir, il faut qu'on soit très proche d'avoir les résultats. Donc, on va ficeler des projets sur des trucs où on est presque sûr de gagner à tous les coups. Et ça, c'est pas des grosses innovations. Donc, en fait, ce qu'on est en train de financer, c'est une recherche incrémentale où on va améliorer un peu l'existant plutôt qu'une recherche fondamentale qui va être génératrice d'innovation. Dans les rapports qui ont précédé le projet de loi, ces points-là avaient été soulevés. Mais dans le projet de loi, il n'y a rien qui permette de financer la recherche fondamentale et innovante. Et au contraire, toutes les propositions de financement visent sur des financements plus court-termistes. Premièrement, par exemple, dans l'article 2, on met en place un nouveau type de recrutement. Donc actuellement, les enseignants-chercheurs et les chercheurs, ils sont recrutés via un concours où il y a une première phase où, sur dossier, on vérifie qu'ils sont qualifiés pour candidater à un poste. Une fois qu'ils ont reçu le tampon pour dire que c'est bon, ils sont qualifiés, ils peuvent candidater, ils candidatent, là on sélectionne les meilleurs. Il y a une partie toujours sur dossier et puis il y a un recrutement oral, enfin un entretien d'embauche devant une commission avec des questions, etc. Et là on classe les candidats, on prend le meilleur. Pendant un an, ensuite, le chercheur ou l'enseignant-chercheur, il est stagiaire. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore titularisé, il est titularisé au bout d'un an. Donc l'avantage de ce système-là, c'est qu'une fois qu'on est titularisé, le chercheur, il peut se poser, il ne va pas perdre du temps à chercher un autre boulot. Donc il va être concentré sur sa recherche et il va se sentir libre et il va pouvoir être productif. Et dans le projet de loi, il y a plein de choses pour créer des postes temporaires, des postes contractuels. Donc l'article 2, il propose un truc qu'on appelle « tenure track » en anglais. Mais en gros, c'est un recrutement contractuel qui va durer entre 3 et 6 ans en vue de la titularisation. En fait, c'est une période d'essai qui dure entre 3 et 6 ans. C'est ça. C'est-à-dire qu'on va garder le même type de recrutement, c'est-à-dire qu'on va quand même vérifier sur dossiers qui sont qualifiés. Donc on va quand même recruter des gens qui ont un bac plus 8, qui ont 2 ans d'expérience professionnelle à l'étranger. Mais on va leur dire, ah ben non, mais il faut encore entre 3 et 6 ans avant d'être sûr que vous êtes vraiment bien, bien qualifié pour ce poste. Il va y avoir ce mode de recrutement et l'ancien qui vont fonctionner en parallèle dans un premier temps. Je veux dire, la loi est prévue comme ça. On dit que ce recrutement contractuel, il va être... En fait, c'est l'établissement qui est recruteur qui va décider d'utiliser ce type de recrutement. Alors, dans la loi, c'est marqué « afin de répondre à un besoin spécifique lié à sa stratégie scientifique ou son attractivité internationale ». Donc, je ne sais pas trop exactement ce que ça veut dire. Le risque avec ça, c'est qu'effectivement, au bout de 3 à 6 ans, normalement, on doit valider quelqu'un si on suppose qu'il est qualifié. Mais le risque, c'est que y ait des universités qui, par exemple, ont un gros problème financier au bout des 6 ans et qui ne titularisent pas la personne pour des raisons financières plutôt que pour des raisons scientifiques qui montreraient que la personne n'est pas qualifiée. L'article 6, lui, c'est un recrutement sur projet. Donc c'est un CDI de projet, on appelle ça comme ça. C'est-à-dire qu'on lui dit, bah voilà, on fait un projet, on ne sait pas quand est-ce qu'il va se terminer, donc on vous recrute tant que le projet est dur. Et puis par contre, à la fin du projet, vous êtes licencié. Ça me semble un petit peu moins pernicieux, mais par contre, c'est toujours des postes précaires. Donc du coup, je ne vois pas comment on peut attirer des gens avec des postes précaires. La recherche française... C'était son atout d'avoir des postes de fonctionnaires. C'était pas le niveau des rémunérations parce qu'on est en dessous de l'OCDE, mais c'était le fait qu'on ait des postes permanents et donc du coup les chercheurs ils pouvaient se poser et pas avoir à se poser la question de où est-ce qu'ils allaient bosser l'année d'après. Et là, eh ben, ça remet ça en question. C'est-à-dire qu'en fait on jette les atouts qu'on avait en remettant plus de contrats précaires possibles. Autre article pernicieux, dans l'article 15, on explique que les chefs d'établissement sont responsables de l'attribution des primes, ça c'était déjà le cas, mais qu'en plus le conseil d'administration il peut créer des dispositifs d'intéressement qui permettent d'améliorer la rémunération des personnels. Et tout ça, l'un dans l'autre, moi ça me fait quand même bien peur du clientélisme. Mais bon, peut-être que je vois le mal là où il n'est pas. Mais en tout cas, je ne vois pas l'intérêt. Et en revanche, je vois bien les menaces potentielles qu'il peut y avoir là-dessus. On a de moins en moins de personnel technique permanent, d'accord ? On en recrute, il y a de moins en moins de postes. En revanche...
Et qui choisit le nombre de postes ?
Ah, ça c'est le ministère de la Recherche qui décide le nombre de postes au concours. Et après qu'il les distribue dans les universités. Et après, les universités elles-mêmes, elles redistribuent entre leurs différentes unités de recherche. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Et par contre, maintenant, on a de plus en plus souvent du financement par projet, je l'ai dit. Et ce financement par projet, il finance à la fois du fonctionnement, c'est-à-dire acheter des produits dont on a besoin pour faire des expériences. Il finance des postes, c'est-à-dire qu'on va payer comme ça des thésards et des post-doctorants. Et il va financer des machines et des postes de techniciens éventuellement, mais c'est des postes temporaires. Le souci, c'est qu'il arrive, c'est pas rare, on utilise un projet pour financer un appareil très cher. D'accord. Mettons une grosse machine à 1 million d'euros. C'est un projet qui est sur 3 ans. Donc on va faire un projet de recherche qui va utiliser cette machine. Mais l'idée, c'est que cette machine, elle puisse continuer à servir une fois que le projet sera terminé. Sauf qu'une fois que le projet est terminé, le personnel technicien qui a été recruté sur le projet, il a fini son contrat. Et on n'a pas les sous pour le garder. Et donc du coup, on a une machine dont on ne peut pas se servir parce qu'on n'a pas le technicien. Et donc cette machine, elle devient inutilisable. Alors, il y a soit parce qu'on n'a pas le technicien, soit parce qu'on ne peut pas la réparer. D'accord ? Il y a les deux choses. Et donc, on va se retrouver à faire un nouveau projet pour refinancer une machine équivalente. Alors bon, comme le temps qu'on obtienne le projet, ce sera peut-être la génération d'après. Mais ce que je veux dire, c'est que l'argent public, il y a une aberration là, c'est que comme on n'a pas le personnel pour entretenir les machines, on est obligé de racheter des machines. Enfin, c'est un truc absurde et qui me paraît effectivement une mauvaise utilisation de l'argent public. Oui, alors juste un truc, c'est que donc là, dans le calendrier du projet de loi, la première lecture à l'Assemblée a été finie et validée. Et à partir du 27 octobre, le Sénat va réexaminer le texte proposé par l'Assemblée. Et théoriquement, début novembre, le texte du Sénat va être présenté à une commission mixte paritaire. Et donc du coup, il nous reste une petite fenêtre d'action pour influer sur la réécriture du Sénat. Donc du coup, j'invite tous mes collègues chercheurs ou même tous les citoyens à aller écrire à leur sénateur pour qu'ils retoquent, enfin en tout cas qu'ils changent le texte pour supprimer ce CDI de projet, ce tenure track, enfin toutes les choses qui vont faire que les chercheurs sont précarisés et la recherche va être court-termiste.
À court terme. Ouais.
C'était La Gueule Ouverte, le rendez-vous mensuel d'Attaque Marseille. On se retrouve le mois prochain, le deuxième jeudi du mois, de 15h à 15h30 sur Radio Galère. Allez, zou, bouleg, casse-toi, bye, bye.